Chapitre 49. Le rugissement bestial est de plus en plus violent, de plus en plus proche. Henri et Vincent en ont les tympans déchirés. Le clou a plaqué ses mains sur ses oreilles pour s'en protéger, mais cela ne diminue pas sa terreur pour autant. Ses jambes le portent à peine. Juste devant lui, Cavel lutte pour rester debout face au puissant courant d'air. Il lui est pénible de garder les yeux ouverts, tant ils sont vite desséchés par le flux. Il fait écran de son corps pour protéger la lampe du mieux qu'il le peut. Si celle-ci venait à s'éteindre, il se retrouverait plongé dans les ténèbres. Quelle sorte d'abomination peut produire un hurlement aussi épouvantable? Les réponses n'appartiennent pas au monde connu. Henri imagine une créature échappée de la mythologie, ou un dragon tiré de son sommeil. Il en frémit, son esprit s'emballe. Il entrevoit déjà un minotaure furieux de voir son antre envahi. Vincent s'attend lui aussi au pire. Il sait déjà que, quoi que ce soit, son couteau ne pourra rien contre. Il scrute le tunnel, épouvanté par ce qui risque d'y surgir. Si c'était encore faisable, il rebrousserait chemin sans hésiter. Même le pire des assassins lui ferait moins peur que ce beuglement préhistorique. Henri se laisse tomber à genoux. Le vent glacé et la terreur lui vrillent le corps. Il se met à crier, mais le hurlement de la bête couvre sa détresse. Découvrant à quel point il est pétrifié, Vincent s'accroupit devant lui. Il est prêt à faire rempart de son corps pour que le garçon ait une chance de survivre. Tant pis s'il doit se faire dévorer pour cela. En attendant, la bête se maintient à bonne distance. Sa colère ne forcit plus. Le monstre semble camper sur sa position. Il est certainement tapis, au-delà du virage que prend le tunnel. Est-il trop massif pour s'introduire dans l'étroit boyau? Serait-il retenu par une grille ou des fers? Son déchaînement s'atténue progressivement en mugissement. Vincent décide alors de tenter d'avancer pour évaluer la menace. Il risque quelques pas prudents, plaqué contre la paroi de calcaire, le souffle court, se demandant si la créature perçoit son odeur ou si elle va réagir à la lueur de sa lampe. Henri est resté derrière, prostré au sol, blotti contre la pierre, claquant des dents. Alors que Vincent progresse lentement, il lui semble que la bête recule d'autant. Voyant la lumière de son complice s'éloigner, Henri pressent qu'il va bientôt se retrouver seul dans l'obscurité. Dans un sursaut, il se relève et rattrape son aîné en s'accrochant à sa veste. Tous les sens de Vincent sont en alerte. Il évalue chaque paramètre de cet environnement hostile. Rien ne lui échappe, ni les légères variations de la forme du tunnel, ni la pente ou l'adhérence du sol. La présence d'éléments suspects pourrait annoncer des pièges. Le monstre ne charge pas. C'est de plus en plus intrigant. Vincent n'entend pas les raclements de pattes griffues qui chercherait à se frayer un chemin, pas plus que le sifflement d'une gigantesque langue bifide. Les hurlements se sont mués en feulements. Ils évoluent sans discontinuer, parfois plus lointains, parfois tout proches, sans qu'il ne se passe rien d'autre. Devant Vincent, le couloir entame une seconde courbe, plus marquée que la précédente. Inspirant à fond pour se donner du courage, Cavel dépasse le virage et s'immobilise. À quelques mètres devant lui, dans la clarté de sa lampe de moins en moins malmenée, de longues stries verticales balafrent le flanc du tunnel. La violence du courant d'air faiblit. Il hasarde prudemment un pied en avant. La lampe fait reculer la pénombre et lui permet bientôt de mieux appréhender les hautes entailles dans la paroi, semblables à d'étroites meurtrières. Vincent en dénombre pas moins d'une demi-douzaine. Henri tente de le retenir par son vêtement. « N'y va pas, c'est sûrement un traquenard !» Le souffle glacial s'est presque dissipé, et le hurlement à la mort n'est plus qu'un lointain chouinement. La bête aurait-elle fui ? Arrivé à la hauteur des ouvertures, Vincent ne sent plus qu'un léger souffle sur son visage. C'est par ces curieuses failles que ce qui reste du courant d'air pénètre encore dans le tunnel. Levant la lampe pour mieux voir, il distingue à l'intérieur des fentes d'étranges lamelles de métal disposées en biais en des tubes suspendus. De dimensions différentes, tous sont réalisés dans un alliage qui ressemble à du cuivre couvert d'oxyde verdâtre. La façon dont sont taillées les bouches d'air interpelle Vincent, qui commence à saisir ce qui s'est joué. Car après tout, ils n'ont fait qu'entendre le monstre. Il fait signe à Henri, qui claque toujours des dents, de s'approcher. « Regarde, je commence à croire que la bête n'était qu'une illusion. » Il lui montre les fentes taillées en sifflets, les plaques et les tubes. Le courant d'air passé au filtre de ces ingénieux instruments à vent donnait sa voix au monstre. Ces lamelles suspendues sont sans doute des sortes d'anches. Notre imagination a fait le reste. Il n'y a pas de dragon, hormis dans nos têtes. Juste un son, de l'air qui, en passant dans ses ouvertures, se transforme en différentes notes qui se mélangent. Pourquoi ça s'est arrêté ? Vincent jette un coup d'œil en arrière. Sans doute parce que le passage s'est refermé. Son ouverture doit amorcer un appel d'air qui déclenche le phénomène. Le tunnel agit comme une flûte géante, produisant son effrayante musique. Plutôt malin pour terrifier les importuns. Le gamin rit nerveusement et ose passer la main dans une fente pour toucher un tube suspendu. Ils voulaient nous flanquer la trouille. Ils ont réussi leur coup. Reste à savoir qui ils sont. Allez, viens, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire.